Parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour chers auditeurs. Cette semaine, je vous emmène à Lourdes, non pas pour vous parler des apparitions, vous les connaissez, et plusieurs émissions ont déjà été diffusées sur ce thème, mais pour vous faire simplement découvrir des lieux insolites que vous ne connaissez peut-être pas, ce qui était mon cas, et que j'ai découvert grâce au livre intitulé « Guide de Lourdes des années 2000 », écrit par Mgr Perrier, notre ancien évêque, qui fut pendant plusieurs années évêque de Tarbes et Lourdes. Et si vous venez à Lourdes en pèlerinage avec le diocèse à partir du 17 août, vous pourrez voir certains lieux avec un œil différent. Mgr Perrier retrace la ville de l'époque de Bernadette, puis les sanctuaires. Je reprendrai donc dans ce livre ce qui nous permet de mieux connaître l'évolution de cette ville et de ses lieux de 1858 à nos jours, et souvent de mieux comprendre le message de Lourdes. Et tout d'abord, voici quelques phrases de Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, ancien recteur du sanctuaire. Si la notoriété de Lourdes grandit toujours, c'est certainement parce que son message est d'une perpétuelle actualité. Il l'est pour les pèlerins qui viennent une fois, une année après année, humblement prier la Sainte Vierge qui s'est présentée ici lors de la 16e apparition comme l'Immaculée Conception. Ils viennent silencieusement à la grotte, confier leur joie et leur peine, découvrir le sourire de Marie à Bernadette et ils se laissent illuminer par lui. Ils viennent parce que ce sanctuaire est le lieu de la guérison des corps et des cœurs. L'actualité du message vaut également pour les visiteurs qui ont entendu parler de cette ville dont le nom est connu du monde entier. Elles veulent simplement découvrir ce qui s'y vit, ce qui en fait le cœur. La statue de Notre-Dame de Lourdes à la grotte de Massabielle se trouve dans presque toutes les églises de l'univers, comme le rappelle l'auteur. Lourdes, en ce sens, est sans doute la ville mondiale. Pour moi, recteur du sanctuaire, lire ces pages m'a fait découvrir tant de choses que j'ignorais. Ce guide qui fourmille de détails, de récits, de paroles aussi, permet de comprendre le présent à la lumière du passé. C'est fort de cet héritage que nous pouvons construire l'avenir. Lourdes ne s'est pas faite en un jour. Marie, la Vierge Immaculée, continue par les pèlerins du monde entier, par les Lourdais amoureux de leur ville, par tous ceux qui sont au service du sanctuaire, et qui apparaissent en filigrane au travers de ces pages, à inviter chacun à venir ici en procession. Fin de citation de Mgr Ribadeau-Dumas, ancien recteur du sanctuaire. Situons le décor. Au recensement de 1856, Lourdes comptait 4135 habitants. Elle en compte aujourd'hui entre 13 000 et 14 000. La ville s'est donc étendue, mais sans faire disparaître la ville de Bernadette. L'axe principal n'a pas changé, et le 11 février 1858, Bernadette a bien descendu ce qui s'appelle depuis lors la rue de la Grotte. Entrons dans la ville et rendons-nous à l'église où on peut voir les fonts baptismaux, où Bernadette a été baptisée. Mais l'église n'est pas celle qu'elle a fréquentée. En effet, l'église ayant partiellement brûlé la nuit du 1er janvier 1896, elle fut détruite en 1904 et reconstruite. Au mur est affichée une reproduction de son acte de baptême qui porte les traces de l'incendie de l'ancienne église. Entrons dans les sanctuaires par la porte Saint-Michel. Vous êtes accueillis par les trois archanges dont les noms sont cités dans la Bible. Michel, Gabriel et Raphaël. Ces trois noms se terminent par les mêmes lettres qui forment en hébreu un des noms de Dieu. Qui est comme Dieu pour Michel, Dieu est fort ou l'homme-dieu pour Gabriel, Dieu a guéri pour Raphaël. Michel a donné son nom à la porte. Il est bien placé pour accueillir des pèlerins, car sa statue fut elle-même pèlerine à travers les sanctuaires avant d'arriver à son poste actuel pour le jubilé de 2008. Peut-être le donateur de la statue voulait-il établir un rapport entre Lourdes et le Mont-Saint-Michel d'une part, la ville du Puy d'autre part, à laquelle Lourdes est liée depuis des siècles. Depuis le Xe siècle, des moines bénédictins habitent le mont qui porte son nom et l'église Saint-Michel d'Aiguille domine la ville du Puy. La voix de l'archange Michel est la première que Jeanne d'Arc entendit. Or, dans cette fin du XIXe, Jeanne allait bientôt être béatifiée. Quand elle quitta Don Rémy, Jeanne n'était guère plus âgée que Bernadette en 1858. Elles firent preuve, toutes deux, du même courage dans l'accomplissement de leur mission. Les statues des archanges Gabriel et Raphaël ont été mises en place en 1911. L'archange Gabriel se tient à gauche de la porte. C'est lui que Dieu envoya trouver une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la jeune fille, dit l'évangéliste saint Luc, était Marie. Curieusement, quand Gabriel s'adresse à elle, il ne l'appelle pas Marie, il lui donne comme nom d'être comblée de grâce. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À aucun moment de sa vie, et même de sa conception, le mal, le péché n'a eu la moindre emprise sur Marie. Elle est la création, la conception parfaite de la grâce. Cette page de l'Évangile est celle qui est lue le plus souvent à Lourdes. C'est en effet le 25 mars 1858, le jour de l'Annonciation, que la dame répondit enfin aux demandes pressantes de Bernadette et du curé en prononçant ces mots « Je suis l'Immaculée Conception ». À la porte Saint-Michel, 400 mètres nous séparent des basiliques, une longue esplanade qui prolonge le boulevard de la Grotte et le pont Saint-Michel. Le pèlerin a le temps de se préparer avant d'arriver à la grotte. Le touriste a le temps de décanter. Sur l'esplanade, il ne trouvera pas de boutique. On ne passe pas brutalement du profane au mystère. Comme toutes les réalités humaines les plus profondes, la foi a besoin d'une initiation. Le baptême d'un adulte se prépare en plusieurs étapes, c'est le temps du catéchuménat. Le franchissement de la porte Saint-Michel serait comme l'entrée en catéchuménat. Poursuivons cette comparaison, nous dit Mgr Perrier. À la cérémonie d'entrée en catéchuménat, le futur baptisé est marqué du signe de la croix. Le 11 février 1858, dès qu'elle aperçoit la lumière dans la grotte, Bernadette est troublée. « Je voulais faire le signe de la croix, dit-elle. Je ne pus porter la main au front. Elle m'est tombée. » Mais la petite demoiselle fait elle-même le signe de la croix. « Alors je pus, dit Bernadette. » L'histoire de Lourdes commence donc par le signe de la croix. En tête de l'esplanade se dresse le calvaire des Bretons. En perspective brille la croix dorée qui surmonte la basilique du Rosaire. Mort et résurrection forment un unique mystère au cœur de la foi chrétienne. Savez-vous que sur la droite du calvaire, un lieu couvert permet aux familles de pique-niquer? Juste à côté, un espace assez vaste et aménagé dans les années 2000 accueille les personnes handicapées, leurs familles et leurs accompagnateurs. En effet, ces personnes viennent parfois isolément, sans être prises en charge par un pèlerinage organisé. Les hôtels d'aujourd'hui sont aptes à les recevoir, mais elles risquent de se sentir perdues dans les sanctuaires. La permanence d'accueil est assurée par l'Office chrétien des handicapés, fondé par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu. Elle permet aussi de prendre des renseignements sur tout ce qui concerne le monde des handicaps, y compris au plan spirituel. Je ne connaissais pas non plus la chapelle Saint-Joseph. Je l'ai découverte grâce à la lecture de ce livre. Construite en 1968, elle est presque complètement enterrée, comme la basilique Saint-Pédis 10 ans plus tôt. C'est là que l'engagement et la consécration des bénévoles à l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes y sont célébrés. Je me permets de vous donner quelques précisions sur les hospitaliers. Nous connaissons les membres de l'hospitalité Notre-Dame de Chartres qui tous les ans accompagnent les malades de notre diocèse. Ils s'en occupent jour et nuit pendant toute la durée de notre pèlerinage. Quand ils souhaitent prononcer leur engagement, la cérémonie a lieu avec les pèlerins dans une des basiliques, très souvent au cours de la messe de clôture du pèlerinage. quant aux bénévoles de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, ses membres sont des bénévoles originaires de 60 pays ayant pour rôle d'accueillir et accompagner des milliers de pèlerins, particulièrement des malades ou handicapés, qui se rendent à Lourdes. L'accueil, la présence aux malades, aux piscines par exemple, l'animation liturgique, le service d'ordre, la logistique dans les sanctuaires. Ils sont entre 20 000 et 30 000 et assurent plusieurs semaines de service par an à Lourdes. Parmi les bénévoles, la plupart ont pris un engagement. Certains, après quelques années de service, sont allés jusqu'à une consécration. Ce sont eux qui s'engagent dans la chapelle Saint-Joseph. À demain, chers auditeurs.